le vilain devenu médecin. Jadis fut un vilain qui, à force d'avarice et de travail, avait amassé quelques biens. Outre du blé et du vin en abondance, outre de bon argent, il avait encore dans son écurie 4 chevaux et 8 bœufs. Malgré cette fortune, il ne songeait point à se marier. Ses amis et ses voisins lui en faisaient souvent des reproches. Il s'excusait en disant que s'il rencontrait une bonne femme, il la prendrait. Eux se chargèrent de lui choisir la meilleure au moins qu'on pourrait trouver, et en conséquence, ils firent quelques recherches. À quelques lieues de là, vivait un vieux chevalier, veuf et fort pauvre, qui avait une fille très bien élevée et d'une figure charmante. La demoiselle était en âge d'être mariée. Mais comme le père n'avait rien à lui donner, personne ne songeait à elle. Enfin, les amis du vilain étant venus en son nom en faire la demande, elle lui fut accordée. Et la fillette, qui était sage et qui n'osait désobliger son père, se vit, malgré sa répugnance, obligée d'obéir. Le vilain, enchanté de cette alliance, se passa bien vite de conclure, et ses noces à la hâte. Mais elles ne furent pas plutôt faites que des réflexions chagrinantes survinrent, et qu'il s'aperçut que, dans sa profession, rien ne lui convenait moins qu'une fille de chevalier. « Pendant que je serai au dehors, pensait-il, occupé à ma charrue ou à quelque autre travail, que deviendra ma femme, élevée à ne rien faire ?» et dans l'état de restérologie. Je tremble d'y penser. Comment donc faire quand il n'y a plus de remède? Si le matin, avant de partir, je la battais, se dit-il à lui-même, elle pleurerait tout le reste du jour. Et il est sûr que pendant qu'elle pleurerait, je ne songerai pas à mal. Le soir, en rentrant, j'en serai quitte pour lui demander pardon. Et je sais bien comment il faut s'y prendre pour l'obtenir. Rempli de cette belle idée, il demanda à dîner. Après le repas, il s'approche de la dame et, de sa rude et lourde main, lui applique sur la joue un tel soufflet que la marque de ses seins doigts y resterait imprimée. Ce n'est pas tout. Comme si elle eût réellement manqué, il redouble de quelques autres coups et sort ensuite pour aller au champ. La pauvrette se met à pleurer et se désole. « Mon père, pourquoi m'avez-vous sacrifié à ce vilain? N'avons-nous donc pas encore du pain à manger? Et moi ? Pourquoi j'étais assez aveugle pour consentir à ce mariage? Ah, ma pauvre mère, si je ne vous avais pas perdue, je ne serais pas malheureuse. Que vais-je devenir? » Elle était si affligée que ne voulut écouter ni recevoir les consolations de personne, et qu'elle passa tout le jour à pleurer, comme l'avait prévu son mari. Le soir, quand il rentra, son premier soin fut de chercher à l'apaiser. C'était le diable qui l'avait tenté, disait-il. Il jura de ne rien jamais porter la main sur elle, se jeta à ses pieds et demanda pardon d'un air si pénétré que la dame promit d'oublier tout. Ils soupèrent de meilleure amitié et firent la paix. Mais le vilain, qui avait vu son stratagème réussir, s'était proposé de l'employer encore. Le lendemain donc, à son lever, cherchant querelle à sa femme, il la frappa de nouveau et la quitta comme la veille. Elle se crut pour le coup condamnée, sans espoir, à être malheureuse, et s'abandonna aux larmes. Tandis qu'elle se désespérait, entrèrent chez elle 2 messagers du roi, montés sur des chevaux blancs. Ils la saluèrent au nom du monarque, lui demandèrent un morceau à manger. Il mourait de faim. Elle leur apprêta aussitôt ce qu'elle avait, et pendant le repas, les pria de lui dire où ils allaient ainsi. « Oh, nous le savons trop, répondirent-ils, mais nous cherchons quelques médecins habiles, et nous passerons, s'il le faut, jusqu'en Angleterre. Demoiselle Adélia, fille du roi, est malade. Il y a 8 jours, qu'en mangeant du poisson, une arête lui est restée dans le gosier. Tout ce qu'on a imaginé depuis ce temps pour l'en délivrer a été sans succès. Elle ne peut ni manger ni dormir et souffre des douleurs incroyables. Le roi, qui se désespère, vous a dépêché pour lui amener quelqu'un capable de guérir sa fille. S'il la perd, il en mourra. » Oh, mais n'allez pas plus loin, reprit la dame. J'ai l'homme qu'il vous faut, grand médecin et plus expert en malade qu'Hippocrate. Oh, ciel, se pourrait-il, et ne trompez-vous pas? Non, je vous le dis, la pure vérité. Mais le médecin dont je vous parle est un fantasque, qui, particulièrement, a le travers de ne vouloir point exercer son talent. Et je vous préviens que, si vous ne le battez fortement, vous n'en tirerez aucun parti. Oh, s'il s'agit que de le battre, nous le battrons. Il est en bonne main. Dites-nous seulement où il demeure. » La dame alors leur enseigna le champ où labourait son mari et leur recommanda surtout de ne point oublier le point important dont elle les avait prévenus. Ils la remercièrent, s'armèrent chacun un bâton et, piquant vers le vilain, le saluèrent de la part du roi et le prièrent de le suivre. « Et pourquoi faire ? » dit-il. « Pour guérir sa fille. Nous savons quelle est votre science. Nous venons exprès vous chercher en son nom. » Le manant répondit qu'il savait labourer et que, si le roi avait besoin de ses services en ce genre, il les lui offrait, mais pour la médecine, il protesta sur sa conscience qu'il n'y entendait absolument rien. Oh, je vois bien, dit l'un des cavaliers à son camarade, que ne réussiront point avec ses compliments et qu'il veut être battu. Et aussitôt, ils mirent tous deux pieds à terre et frappèrent sur lui à qui mieux. D'abord, il voulut leur représenter l'injustice de leur procédé. Mais comme il n'est pas le plus fort, il lui fallut filer doux, et en demandant grâce bien humblement, promettre d'obéir en tout ce qu'ils exigeraient. On le fit donc monter sur une des juments de sa charrue, et on le conduisit ainsi au roi. Le monarque était dans la plus grande inquiétude sur l'état de sa fille. Le retour des deux messagers lui rendit l'espérance. Il les fit entrer aussitôt pour savoir quel était le succès de leurs recherches. Ceux-ci, après beaucoup d'éloges de l'homme merveilleux et bizarre qu'ils amenaient, racontèrent leur aventure. « Oh, je n'ai jamais vu médecin comme celui-là, dit le prince, mais au reste, puisqu'il aime le bâton et qu'il fait cela pour guérir ma fille, soit qu'on le bâtonne. » Il ordonna dans l'instant qu'on descendit la princesse, et faisant approcher le vilain. « Maître, lui dit-il, voici celle qu'il faut guérir. » Le pauvre diable se jeta à genoux en criant merci et jura par tous les saints du paradis qu'il ne savait pas un mot, pas un seul mot de médecine. Pour toute réponse, le monarque fit un signe et à l'instant, deux grands sergents qui étaient là tout près, armés de bâtons, firent pleuvoir sur ses épaules une grêle de coups. « Grâce, grâce » s'écria-t-il, « je la guérirai, sire, je la guérirai !» La princesse était devant lui, pâle et mourante, et bouche ouverte, elle lui montra du doigt le siège et la cause du mal. Il songeait en lui-même comment il pourrait s'y prendre pour opérer cette cure, car il voyait bien qu'il n'y avait plus à reculer et qu'il fallait en venir à bout ou périr sous le bâton. Le mal n'est que dans ce gosier, se disait-il. Si je pouvais réussir à la faire rire, peut-être l'arrêt sortirait-elle. Cette idée lui parut avoir quelque vraisemblance. Il demanda donc au monarque qu'on allumât un grand feu dans la salle et qu'on le laissât un instant seul avec la princesse. Tout le monde retiré, il se la fit asseoir, s'étendre le long du feu, et de ses ongles noirs et crochus, il commença à se gratter et à s'étriller la peau avec des commissions et des grimaces si plaisantes que la princesse, malgré sa douleur, n'y peut tenir. Elle part tout à coup d'un éclat de rire. Et de l'effort qu'elle fait, l'arête lui vole hors de la bouche. Il la ramasse, court à la porte. « Sire, la voici, la voici !»« Mais vous me rendez la vie !» s'écria le monarque, transporté. Et il promit de lui donner en récompense des habits et des robes. Le vilain le remercia. Il ne demandait que la permission de s'en retourner et prétendit avoir beaucoup à faire dans son ménage. En vain, le roi lui proposa de devenir son ami et son médecin. Il répondit toujours qu'il était pressé, qu'il n'y avait point de pain chez lui, et quand il était parti, qu'il fallait absolument porter du blé au moulin. Mais lorsqu'un sourd signal du prince, les deux sergents recommencèrent à jouer du bâton. Lorsqu'il sentit les coups, il cria « Miséricorde !» et promit de rester non seulement un jour, mais toute sa vie, si on voulait. On le conduisit alors dans une chambre voisine, où après lui avoir ôté ses haillons, après l'avoir tondu et rasé, on le revêtit d'une belle robe d'écarlate. Il s'occupait pendant tout ce temps que des moyens de s'échapper, et comptait bien que, ne pouvant toujours être gardé à vue, il en trouverait bientôt l'occasion. Cependant, la guérison qu'il venait d'opérer avait fait du bruit. À cette nouvelle, plus de 80 malades de la ville, dans l'espérance du même succès pour eux, étaient venus au château le consulter et avaient prié de monarque de lui dire un mot en leur faveur. Le roi le fit appeler. « Maître, lui dit-il, je vous recommande ces gens-là, guérissez-les tout de suite, et que je les renvoie chez eux. »« Mais sire, répondit le vilain, à moins que Dieu ne s'en charge avec moi, ça ne m'est pas possible, il y en a trop. » « Qu'on fasse venir les serveurs sergents, » reprit le prince. À l'approche des exécuteurs, le malheureux, tremblant de tous ses membres, demanda de nouveau pardon et promit de guérir tout le monde, jusqu'à la dernière servante. Il pria donc le roi de vouloir bien encore une fois sortir de la salle, ainsi que tous ceux qui se portaient bien. Restez avec les seuls malades, il les arrangea tout autour de la cheminée, dans laquelle il fit faire un grand feu, et leur parla ainsi. « Mes amis, ce n'est pas une petite besogne que de rendre la santé à tant de monde, et surtout aussi promptement que vous le désirez. Je ne sais qu'un moyen. C'est de choisir le plus malade d'entre vous, de le jeter dans le feu, et quand il sera consumé, de prendre ses cendres pour se faire avaler à d'autres. Le rebelle est violent, j'en conviens, mais il est sûr, et je réponds après cela de votre guérison sur ma tête. » À ces mots, ils se regardèrent les uns les autres, comme pour examiner leur état respectif. Mais dans toute la bande, il n'y avait personne, éthique ou enflé, qui pour la Normandie entière eût voulu convenir ainsi que sa maladie était grave. Le guérisseur, s'adressant au premier du cercle, « Oh, tu me parais parler faible, lui dit-il. Oh, je crois que c'est toi qui es le plus mal. » « Moi, messire, mais point du tout, répondit l'autre. Je me sens tout à fait soulagé dans ce moment. Oh, je ne me suis jamais si bien porté. Comment, coquin, tu te portes bien, et que fais-tu donc ici ? » Et mon homme aussitôt d'ouvrir la porte et de se sauver. Le roi était en dehors, attendant l'événement, et prêt à faire bâtonner le vilain, s'il fallait encore en venir là. Et il voit sortir un malade. « Es-tu guéri ? » lui dit-il. « Oui, oui, sire. » L'instant d'après, un second paraît. « Et toi ? » ?»« Oh, je le suis aussi. » Enfin, que vous dirais-je, il n'y eut personne, jeune ou vieux, femme ou fille, qui voulut consentir à faire descendre, et tous sortir, se prétendant guéri. Le prince, enchanté, rentra dans la salle pour féliciter le médecin. Il ne pouvait assez admirer comment en aussi peu de temps il avait pu opérer tant de malades. « Sire, répondit le vilain, je possède un charme d'une vertu sans pareille, et c'est avec cela que je guéris. » Le monarque le combla de présents. Il donna de l'argent et des chevaux, l'assura de son amitié et lui permit de retourner auprès de sa femme, à condition cependant que quand on aurait besoin de son secours, il viendrait sans se faire bâtonner. Le malin prit ainsi congé du roi. Il n'eut plus besoin de labourer, ne battit plus sa femme, l'aima et en fut aimé. Mais par le tour qu'elle lui joua, elle le rendit médecin malgré lui, et sans le savoir.